Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 27 Ordibehesht, 1401 du calendrier iranien, 17 mai 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Après la visite aux Émirats arabes unis, le ministre iranien des Affaires étrangères dit que la chaleur des relations de voisinage déçoit les ennemis. L'Iran et les Émirats arabes unis élargissent leurs relations bilatérales. Sept satellites iraniens sont en cours d'achèvement ou prêts à être lancés. Et en Ukraine, l'armée ukrainienne cède le port de Mariupol à l'armée russe. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné les crimes d'Israël contre les Palestiniens, y compris la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville sainte de Quds. Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'Israël est la source d'insécurité dans la région. Il a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le nouveau président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à Abu Dhabi. Amir Abdollahian a félicité le cheikh Mohammed pour sa nomination en tant que nouveau président des Émirats arabes unis. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. À la tête d'une délégation de haut rang, le chef d'état-major des forces armées iraniennes s'est rendu au Tadjikistan pour renforcer la coopération militaire et défensive entre les deux pays. Le général de division, Mohammad Borrelli, a rencontré le ministre tadjik de la Défense, Sher Ali Mirza, dans la capitale Dushanbe. Lors de la réunion, les deux hommes ont souligné la nécessité de mesures antiterroristes, de l'établissement de la paix et de la sécurité aux frontières et de l'organisation des exercices militaires conjoints. Le chef de l'agence spatiale iranienne a déclaré que si les conditions se remplissent conformément au contrat conclu avec les fabricants de satellites, d'ici mars 2023, un total de 7 satellites seront achevés et prêts à être lancés en Iran. De plus, la construction du premier échantillon du satellite Nahid 2 sera achevée. Ce satellite est l'un des satellites dotés de la technologie de télécommunication et il est équipé d'un thruster. Il a la capacité d'effectuer des manœuvres et des corrections orbitales et peut être considéré comme une étape importante dans la construction de systèmes de télécommunication Abbas Altitude, a déclaré le chef de l'agence spatiale iranienne. Une forte tempête de poussière a forcé la fermeture des écoles et des universités et des bureaux publics dans plusieurs provinces iraniennes, dont la capitale Téhéran. La tempête de poussière, originaire d'Irak et de Syrie, est entrée lundi en Iran, touchant 8 provinces, principalement à l'ouest. La concentration de fines particules de poussière dans certaines villes est 20 fois supérieure au niveau de sécurité. En Irak voisin, les autorités disent qu'au moins 4000 personnes se sont rendues dans les hôpitaux avec des problèmes respiratoires. Il s'agit de la 8e tempête de sable à frapper l'Irak au cours du mois dernier. Au Liban, les résultats officiels des élections législatives montrent que les candidats indépendants ont fait des gains sans précédent. Selon le ministère libanais de l'Intérieur, les candidats indépendants ont remporté au moins 13 des 128 sièges de l'Assemblée. Ils ont fait campagne contre l'élite dirigeante libanaise et se sont engagés à apporter des réformes. Le mouvement de résistance, le Hezbollah et ses alliés remportent 62 sièges, mais perdent leur majorité parlementaire. L'armée ukrainienne a déclaré mardi qu'elle s'efforçait d'évacuer les dernières forces piégées dans l'usine d'Azovstal, dans le port de Mariupol, assiégé, cédant le contrôle de la ville à l'armée russe. La garnison Mariupol a rempli sa mission, a annoncé mardi matin l'état-major de l'armée ukrainienne. Le commandant militaire suprême a ordonné au commandant des unités déployées à Azovstal de sauver la vie de ses hommes. Lundi, des centaines de soldats ukrainiens, dont de nombreux blessés, ont été transférés dans des villes sous contrôle russe. Moscou a déclaré plus tôt qu'un accord avait été conclu pour évacuer les troupes blessées. Quelques 600 soldats et civils étaient retranchés dans l'usine pendant plus de 2 mois, alors que les forces russes prenaient le contrôle d'autres parties de la ville. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'élargissement de l'OTAN et l'ignorance des considérations de sécurité de la Russie par l'Occident sont les raisons de la situation actuelle en Ukraine. Nous pensons que la racine de tout ce que nous voyons aujourd'hui est l'élargissement de l'OTAN et l'ignorance des considérations politiques et sécuritaires d'un certain nombre de pays, en particulier la Russie, ainsi que des accords conclus au cours des décennies précédentes par les pays occidentaux, a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Un membre du Congrès américain présente une résolution à la Chambre des représentants pour la reconnaissance de la Nakba, catastrophe des Palestiniens. Madame Rachida Talib, qui est d'origine palestinienne, a tweeté que la Nakba continue de se produire aujourd'hui. Il y a quelques jours, les Palestiniens ont célébré le 74e anniversaire de la Nakba ou le jour de la catastrophe. L'occasion marque l'expulsion forcée de centaines de milliers de Palestiniens de leurs terres par Israël en 1948. Depuis lors, des millions de Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza et dans les pays voisins. Madame Talib dit que lorsque les gens refusent de reconnaître les crimes de guerre israéliens, les Palestiniens sont privés de leurs droits humains. Plusieurs groupes de défense des droits des Palestiniens ont salué la décision contre Israël, qui bénéficie d'un large soutien de Washington depuis des décennies. Et enfin, la junte au pouvoir au Mali a affirmé lundi soir avoir mis en échec, la semaine passée, une tentative de coup d'État menée par des officiers et soutenue par un État occidental non précisé. Le communiqué ne donne quasiment aucune précision sur ce qui serait produit. Il fait état d'interpellations sans plus de détails. Il indique que les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières. Après la visite aux Émirats arabes unis, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, dit que la chaleur des relations de bon voisinage déçoit les ennemis. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les relations chaleureuses entre les voisins déçoivent les ennemis alors qu'ils rencontrent le président nouvellement nommé des Émirats arabes unis. Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la République islamique d'Iran et les Émirats arabes unis, a tweeté le haut diplomate iranien après avoir rencontré Mohammed Ben Zayed Al Nahyan à Abu Dhabi lundi. Nous serrons chaleureusement la main de nos voisins. La chaleur des relations de bon voisinage déçoit les ennemis de la région, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian s'est rendu lundi aux Émirats arabes unis pour rendre hommage, après la mort du président Khalifa Ben Zayed, tandis que Téhéran a salué la nomination du nouveau dirigeant de l'État du Golfe Persique. Le voyage du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, était la visite de plus haut niveau d'un responsable iranien dans ce pays du Golfe Persique ces derniers mois. En 2019, les Émirats arabes unis ont commencé à s'engager avec la République islamique d'Iran à la suite d'attaques mystérieuses contre des pétroliers au large des eaux du Golfe Persique. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Boredikhani, s'est rendu aux Émirats arabes unis en novembre 2021 lorsqu'il a déclaré que les deux pays avaient convenu d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. L'homme fort des Émirats arabes unis, le Cheikh Mohammed, qui a été officiellement élu président par le Conseil suprême fédéral du pays samedi, a dirigé un réalignement du Moyen-Orient qui a créé un nouvel axe anti-iranien avec Israël. En août dernier, le président Ebrahim Raisi a déclaré que la République islamique d'Iran était déterminée et ouverte à l'expansion des relations avec les Émirats arabes unis. Lundi, le président iranien Ebrahim Raisi a adressé ses félicitations au Cheikh Mohammed pour sa nomination à la présidence des Émirats arabes unis, exprimant l'espoir que les Émirats arabes unis et la République islamique d'Iran amélioreraient encore leurs relations pour servir leurs intérêts communs. Le président Raisi espère que les relations mutuelles seront développées avec sagesse et conformément aux intérêts des deux pays. Le Cheikh Khalifa, qui était également le dirigeant de l'émirat d'Abu Dhabi, est décédé vendredi à l'âge de 73 ans. Il luttait contre la maladie depuis plusieurs années et avait depuis longtemps cessé de s'impliquer dans les affaires quotidiennes. Selon la Constitution des Émirats arabes unis, le vice-président et premier ministre, le cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, agira en tant que président jusqu'à ce que le Conseil fédéral, composé des dirigeants des sept émirats, se réunisse dans les 30 jours pour élire un nouveau président. Immense plaque tournante de la réexportation dans le Golfe Persique, les Émirats arabes unis sont un important fournisseur de biens et de machines à la République islamique d'Iran depuis 2018, lorsque l'Iran a fait l'objet d'une série de sanctions économiques unilatérales de la part des États-Unis.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Le débat dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les derniers développements relatifs à l'Ukraine, surtout en fait de cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. La Russie qui dit désormais ouvertement que des mercenaires israéliens sont présents sur le territoire ukrainien pour combattre l'armée des Russes. Je vais dire quelque chose que les politiciens israéliens ne veulent sans doute pas entendre, mais peut-être que cela les intéressera. En Ukraine, des mercenaires israéliens sont aux côtés des extrémistes d'Azov, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Madame Maria Zakharova. Ces propos interviennent suite, si vous voulez, à cette récente déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a suscité la colère des autorités israéliennes. Sergueï Lavrov, qui l'a en fait affirmé, c'était dimanche, qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Et dans le même temps, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne. Et s'agissant de la France, il y avait cette déclaration du président français Emmanuel Macron, c'était hier, de jeudi 5 mai, comme quoi en fait plusieurs centaines de millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaires vont être accordés pour l'Ukraine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales qui va en fait nous rejoindre dans les minutes à venir. Mais pour commencer notre émission, on va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beur. M. Beur, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur PSP.
M. Beur, je viens de lancer le sujet, les derniers développements relatifs à l'Ukraine, très particulièrement cette passe d'armes entre la Russie et le régime israélien. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre Tel Aviv et Moscou, M. Beur?
Tel Aviv a tiré un peu trop sur la corde. Cela a commencé depuis, on va dire, si on prend simplement les derniers événements sur les dernières années, avec l'affaire de l'avion russe détruit du fait de la de l'action de la nation israélienne qui s'était cachée derrière, donc celle de la Syrie. Et puis dernièrement, on peut en voir un élément positif puisque le premier ministre israélien avait fait en fait la navette, la liaison entre Moscou et Kiev, et semble-t-il avait apporté une possibilité de dialogue. Sauf que ça n'a pas dû plaire évidemment à une partie de la classe politique israélienne, en particulier du protecteur américain. Et aujourd'hui, on voit bien le retour et les déclarations officielles israéliennes où il y a aide entre guillemets humanitaire, aide militaire et condamnation de l'activité russe en Ukraine. Alors même que pour les Russes surtout, c'est une double trahison, déjà certainement la parole donnée d'un point de vue diplomatique lors de ces derniers échanges, mais surtout vis-à-vis des personnes et des groupes qu'ils combattent en Ukraine, à savoir ces bataillons nazis, Azov, Haïdar et autres compagnies. Je précise que malheureusement, ça a été diffusé dans l'armée ukrainienne, puisque beaucoup des officiers de l'armée ukrainienne viennent de ces bataillons. Ce qui explique beaucoup d'ailleurs des activités criminelles que mène aujourd'hui même l'armée ukrainienne. Et donc, pour revenir sur votre question, plus simplement, que peut-on dire ? Peut-on dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie a décidé de mettre les pieds sur la table. C'est-à-dire que ça suffit, cette hypocrisie. Et de dire ce qu'il faut dire. Lorsque vous avez des mercenaires israéliens qui sont donc des anciens militaires, ils ne partent pas par hasard, ils ne partent pas sans l'autorisation de leur gouvernement, encore moins de l'armée. Ils partent effectivement en mission. Et en plus, à côté des bataillons donc d'Azov et autres, qui sont on va dire la pointe de la russophobie et des gens qui mènent des crimes contre les populations russophones dans l'Ukraine, en Ukraine, c'est une provocation, on va dire, suprême. C'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Donc, maintenant, on dit la vérité. Alors, ça gêne. Ça les gêne, les histoires des affiliations d'Hitler. Mais on va parler des affiliations d'Ashman, qui avait une grand-mère aussi juive. Et alors, c'est une réalité. Est-ce que ça les gêne qu'on dise que le Bétard a travaillé avec les nazis jusqu'en 1944-45? Ils vont dire, beaucoup vont dire, et beaucoup de sionistes d'ailleurs vont en parler, en disant que c'est une horreur, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv. Faudrait-il encore qu'ils étudient l'histoire même du sionisme, leur propre histoire? Ce serait déjà beaucoup. Rappelons que dans l'Allemagne nazie, il y avait l'interdiction de tout mouvement de jeunesse qui n'était pas la jeunesse hitlérienne, sauf le Bétard, qui avait quoi comme chemise? Une chemise brune, et comme drapeau, celui d'Israël aujourd'hui. Donc on peut aller très loin s'ils veulent, et la Russie peut aller très loin si on le veut, parce que les archives de l'Allemagne nazie, à Berlin, on va dire qu'ils ont été récupérés par Moscou. Donc s'ils veulent qu'on aille plus loin, on va aller plus loin. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas à leur avantage. Donc il serait temps, et c'est en cela que vous avez ces mises en demeure publiques de la diplomatie russe, de dire si vous voulez aller plus loin, il n'y a aucun souci, on peut y aller maintenant, vous vous calmez. Vous sortez du jeu. Sinon, si vous ne sortez pas du jeu et que vous intervenez dedans, vous donc faites partie des belligérants. Si vous êtes partie des belligérants, à ce moment-là, on agit comme tout belligérant, on rend les coups. Et là, les coups, ça peut être plus important, puisque ce ne sera pas des coups militaires qui seront rendus. Ce seront des coups au mythe de la fondation de l'État d'Israël et des premiers sionistes. Et ça peut faire très mal. Et je pense qu'à Tel Aviv, ils ont intérêt, comme à New York ou comme à Paris, au quartier Saint-Germain-des-Prés, et ils ont intérêt à réfléchir beaucoup à cette question-là, parce que je pense que ça peut faire du mal. Si tant est qu'aujourd'hui, dans le bloc occidental, ils mettent de la censure, je crois que dans le reste du monde, les gens sont prêts à entendre la vérité.
On va partir tout de suite à de Damas pour rejoindre Maître Arnon Develé. Maître Develé, vous avez entendu M. Beber. Que pensez-vous de cette, pour employer l'expression de M. Beber, de cette mise en demeure publique et ouverte, si vous voulez, de la Russie au régime israélien? Et si j'ai bien suivi, en fait, M. Beber, à Moscou, on a cette impression que le régime israélien a franchi la ligne rouge.
Le régime israélien est coutumier de franchir la ligne rouge. semble penser qu'il y a un standard de conduite pour eux et un standard de conduite pour les autres. Sauf que dans le contexte de cette façon de faire, si je puis dire, vis-à-vis des Russes, pour le coup, je crois qu'ils se sont trompés d'interlocuteur. Autant il a toujours été possible d'exercer une forme de chantage moral sur les gouvernements occidentaux concernant certaines questions, eu égard au fait que ces sujets étaient figés et faisaient partie d'un certain narratif qui n'avait pas vocation à être remis en cause ou même discuté de manière critique. Autant on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit d'imposer ce standard aux Russes, le jeu s'arrête. Les Russes n'ont absolument aucune raison, leçon à recevoir en termes de lutte contre le fascisme ou de lutte contre le nazisme. Ils ont payé le prix fort, à savoir 27 millions de vies. Et comme le soulignait M. Bohr, ils étaient les premiers à libérer les camps et ils étaient les premiers à Berlin. Donc ils ont effectivement énormément de matériel en leur possession. Et que si le régime de Tel Aviv venait à essayer de pousser l'argumentaire dans ce sens-là et d'épouser cette notion selon laquelle les nazis, quelque part d'aujourd'hui, et on a entendu des termes juridiques qui ont quand même des connotations extrêmement marquées, telles que génocide. En ce qui concerne les agissements présumés des Russes dans l'Est de l'Ukraine, on commence à comprendre où cette petite musique nous emmène et dans quel sens il semblerait que les Israéliens semblent se positionner, parce que quand on commence à laisser entendre que les dirigeants, la direction russe se serait rendue coupable d'exactions qui relèvent quelque part de la jurisprudence Nuremberg, on peut penser que, quelque part, l'objectif, c'est d'accompagner cette idée de changement de régime et de juger ensuite, aux yeux de l'histoire, en tout cas d'une certaine vision de l'histoire, l'action militaire russe actuelle. Donc tout ça, c'est un petit peu quelque chose qu'il faut lire entre les lignes, mais les signes ne trompent pas, la sémantique choisie ne trompe pas, et je pense que dans ce contexte-là, la diplomatie russe a été extrêmement ferme, elle a été très claire quant au danger que cette escalade sémantique et donc diplomatique peut générer si Tel Aviv continue dans cette direction. Maintenant, les faits sont ce qu'ils sont. Le principal financier du régime kiévien se trouve à vivre en Israël. Il a rapatrié tous ses milliards là-bas. On peut penser que le quiproquo concernant cette rapatriation et cet exil à Tel Aviv, c'est qu'il soit en mesure de continuer à financer effectivement les mercenaires qui s'y rendent. Et ce faisant, quelque part, ça laisse entendre que le régime sioniste a choisi son camp. On peut rajouter à ça que Washington, probablement, met la pression supplémentaire parce qu'il y a... C'est comme ça que Washington voit les choses. Et à partir de là, ça va être de plus en plus difficile pour le régime sioniste d'essayer de continuer à jouer ce jeu d'équilibriste sans qu'il ne s'y brûle les ailes, si je puis dire. Mmh.
Monsieur Bohr, je viens de le dire tout à l'heure, la Russie a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Et cette annonce faite par l'armée russe intervient après, si vous voulez, cet rapport qui avait été diffusé par certains médias, y compris dont américain, comme quoi en fait l'armée ukrainienne avait tué en fait des généraux russes grâce aux aides en matière de renseignement Washington, des États-Unis. Monsieur Bohr, quel est d'après vous le message de ces exercices, si vous voulez, de ces tirs de missiles à capacité nucléaire de la part de la Russie, s'il vous plaît?
Alors, deux réponses. La première, la propagande de Kiev est coutumière manière de vivre dans un monde virtuel. Le métaverse n'existe pas encore, mais chez eux, il est bien présent hein, dans leur propagande à Kiev, puisque si on les écoute, il y a plus de tanks dans l'armée russe, tellement qu'ils en auraient détruit. Ça en devient ridicule. Donc ce qui vient de Kiev n'a pas tellement d'intérêt en réalité. Quand bien même, effectivement, certainement qu'il y a des pertes, si tant est qu'il y ait eu les pertes qu'il déclare, qu'il nous explique pourquoi à ce moment-là il recule partout. Les Russes doivent être certainement des super-hommes, certainement. Maintenant, cela étant dit, moi je ne reprends jamais ce que vient de Kiev, surtout venant d'un président qui était avant un clown. Aujourd'hui c'est un clown triste, c'est un clown criminel. Mais maintenant, pour revenir sur Kaliningrad, c'est en réponse à l'attitude de l'OTAN. Alors, il y a l'attitude officieuse qui est celle des généraux que nous voyons pas qu'en France dans les médias, mais si on parle de la France qui viennent, et dont certains officiers français, peut-être à la retraite, et qui disent qu'il faut frapper la Russie avec des frappes nucléaires préventives. Ces gens-là sont des fous. Et lorsque la Russie entend ça, la Russie, elle, ne prend jamais des déclarations à la légère. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce qu'il faut pour prévenir ces choses. Et elle a bien indiqué, surtout à la Pologne, qui est de plus en plus belliciste dans la région, que s'il voulait jouer à ce petit jeu, Kaliningrad est prêt à jouer son jeu dans le cadre d'une réponse symétrique, cette fois-ci, à une attaque qu'il voudrait faire, puisqu'on a entendu même des généraux polonais déclarer qu'il fallait envahir évidemment Kaliningrad et qu'il fallait même prendre la Biélorussie et tout l'Ouest ukrainien d'ailleurs pour faire une grande Pologne. Ceci étant dit, on n'est pas très loin de la réalité puisque vous allez voir, et certainement dans quelques semaines, il y a une forte possibilité que les Polonais puissent intervenir dans l'Ouest ukrainien officiellement pour protéger l'invasion russe, alors que les Russes ne s'intéressent absolument pas à l'Ouest ukrainien qui n'a d'ailleurs même jamais fait partie d'un point de vue historique de l'Empire russe. Donc simplement pour en fait prendre un morceau, on va dire, de l'Ukraine. Donc la réponse à Kaliningrad de l'état-major russe, c'est simplement de dire on ne bluffe pas. La Russie, lorsqu'elle déclare des choses, elle ne bluffe pas. Ce qu'elle dit, elle va le faire. Donc elle montre qu'elle peut faire, qu'elle peut réagir et qu'à ce petit jeu, l'OTAN ne va pas gagner. À Kaliningrad, il y a les moyens de la politique jusqu'à la Pologne, jusqu'à la frontière allemande de l'offensive militaire russe, ils en ont envie. Ce n'est pas le cas et c'est pas l'objectif russe. L'objectif russe, ça ne concerne qu'une partie de l'Ukraine. Ça concerne l'OTAN qui doit s'arrêter. Et donc, c'est un message envoyé à l'OTAN, comme quoi, si vous voulez jouer, nous sommes prêts, nous avons les moyens qui sont déjà prédisposés. Puisque beaucoup, et c'est ça qui est grave, c'est que beaucoup de ces généraux, alors ils sont à la retraite peut-être, mais ils ont une influence. Et on s'imagine que certainement ceux qui suivent, comme toujours dans cette société occidentale, où ceux qui arrivent à la suite sont généralement d'un niveau inférieur, sont plus médiocres que leurs prédécesseurs, qu'ils aient la même pensée. Et pour éviter qu'ils aient la même pensée, il faut de temps en temps leur rappeler à la réalité, puisqu'ils en arrivent à croire à leur propre surpuissance. Je terminerai là-dessus, quand on voit des experts sur les médias français qui ne savent pas placer Donetsk, qui ne savent pas placer le Donbass, qui confondent même certains la mer Noire avec la Caspienne, c'est affolant du niveau que peut avoir ces gens-là qui sont qui décident certainement des décisions au niveau de l'état-major français. Donc de temps en temps, une petite piqûre de rappel, les piqûres ils aiment bien ça en ce moment en Europe de l'Ouest, donc une petite piqûre de rappel fera du bien, et celle-ci, ces missiles à capacité nucléaire effectivement sont une piqûre de rappel, puisque je rappellerai que les missiles en question dont on parle à Kaliningrad peuvent avoir une charge classique comme peuvent porter une charge nucléaire, c'est-à-dire que si un missile est tiré, ils ne savent pas ce qu'ils vont se recevoir sur la figure. En cela, déjà cela est une dissuasion, et espérons que ce sera compris par les docteurs Follamour de l'OTAN, et j'espère des Européens, parce que les Américains, une guerre en Europe, ça les arrange, mais les Européens, c'est suicidaire.
Maître de Velette, la France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires. A annoncé Emmanuel Macron, président français, jeudi 5 mai 2012, dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. De ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé en fait l'Élysée. Comment expliquez-vous cette prise de position de Paris dans ce contexte marqué, on vient de le dire, par, si vous voulez, cette passe d'armes entre le régime israélien et, si vous voulez, la Russie, entre le camp occidental et la Russie, qui est maître de volée?
Écoutez, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est pour un pays dont François Fillon disait dès 2008 qu'il était à la tête d'un État en faillite, on a du mal à comprendre comment le gouvernement français actuel peut générer des centaines de millions jusqu'à, effectivement, comme vous le soulignez, 2 milliards d'euros en assistance à un pays qui non seulement ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'OTAN. Donc il n'y a absolument aucune obligation légale de se faire. Nous rappellerons que le contexte initial était pourtant très très simple. Il s'agissait de mettre en œuvre les accords de Minsk. Emmanuel Macron porte donc une responsabilité écrasante puisqu'il est quand même aux affaires depuis 2017 et que dans ce contexte-là, il était au nom de la France garant de ces accords avec Madame Merkel et qu'il aurait dû avec elle mettre la pression sur le clown triste Zelensky pour que celui-ci remplisse ses promesses de campagne. Je rappellerai à nos auditeurs qu'il avait fait campagne sur une réconciliation, sur le droit des populations russophones d'Ukraine de pratiquer leur langue et de pouvoir vivre en toute égalité de droits avec leurs concitoyens ukrainiens de l'Ouest, et que rien de cela n'a été mis en place à partir du moment où il a été élu, encore une fois, avec le financement de Igor Komolovsky, qui, je le rappelle encore une fois, a établi maintenant son quartier général à Tel Aviv. Donc, dans ce contexte-là, on peut effectivement se poser des questions sur cet alignement, ce suivisme, d'autant plus que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont censés avoir eu une conversation téléphonique qui a duré 2 heures, et que si on veut vraiment rechercher une solution à cette situation, la première chose à faire, c'est d'arrêter, encore une fois, de fournir le régime kiévien en armement. Et lorsqu'on entend effectivement, effectivement une aide alimentaire, une aide humanitaire, on sait très bien que sous couvert humanitaire, il est très facile de faire passer tout un tas d'équipements militaires. Et d'ailleurs, la France a annoncé, même quasi officiellement, qu'elle a envoyé ses canons César, qui sont quand même des systèmes relativement sophistiqués. Donc, ce faisant, mettant de l'huile sur le feu, c'est difficile d'imaginer à la lumière de ces événements objectifs, comment la politique et donc la conduite du gouvernement français dans cette affaire soit de nature à mettre, si je puis dire, une forme de restreinte et appeler une solution diplomatique de la crise actuelle.
Monsieur Beurre, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec Maître Develet qui dit que voilà, la solution à envisager pour mettre un terme à cette guerre, c'est de cesser d'alimenter en armement, si vous voulez, Kiev?
Oui, l'OTAN sait très bien qu'elle a perdu la guerre. C'est une évidence. Pour tout expert militaire rationnel, ils savent très bien que la Russie l'a déjà gagné. Je rappellerai que la Russie engage maximum 10% de ses capacités en Ukraine. Parce que lorsqu'on dit que l'armée russe n'a pas les capacités, non, elle dose son intervention par rapport à cela. Je rappellerai que l'aide humanitaire, on la retrouve en vente en Ukraine, c'est-à-dire qu'elle est détournée. L'aide humanitaire, c'est de la corruption. L'Ukraine est l'État le plus corrompu du monde, selon les organisations occidentales en charge de faire un rating de la chose. Donc déjà, la seule chose qui compte en Ukraine, le seul mot qui compte en Ukraine, et je connais bien l'Ukraine pour avoir même fait, avant le Maïdan, j'ai été observateur électoral à Kiev pour les dernières élections, j'ai compris à ce moment-là que la seule chose qui comptait, c'était combien. quelle que soit, c'était l'opposition ou pas l'opposition, c'est une question qui est d'ordre général en Ukraine. Donc maintenant, la Russie a été très claire. Oui, si on veut trouver une solution à ce conflit, c'est simple, n'intervenez pas dans une affaire qui concerne Kiev et Moscou. Point. S'ils n'interviennent pas, à ce moment-là, il n'y a pas de soutien militaire. La Russie obtient ce qu'elle veut plus rapidement. Et il y a à ce moment-là une situation où la guerre s'arrête et un nouvel ordre politique se met en place. Mais c'est cela que ne veut pas l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça voudrait dire qu'elle démontrerait sa faiblesse, qu'elle démontrerait que finalement elle ne protège pas tellement qu'elle a dit qu'elle allait protéger l'Ukraine. Elle s'est pris à son propre piège, avancé par les Américains d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une situation, ils n'arrivent pas à se retirer. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens, je conclue dessus, je vous rassure, les Européens n'arrivent pas à faire marche arrière alors qu'ils ont fait une erreur. Ils devraient reconnaître leur erreur et laisser se terminer ce qui arrivera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et leur intervention militaire aujourd'hui en Ukraine est responsable des morts aujourd'hui supplémentaires. Et ce sont eux qui devront aller au tribunal et répondre des crimes que vont répondre les militaires et les politiques de la junte de Kiev qui passeront devant le tribunal, un tribunal spécial qui a été créé d'ailleurs par les Russes et d'autres pays pour pointer la responsabilité et ne pas laisser les crimes de génocide sans qu'ils soient traînés en justice.
Merci infiniment, M. Fabrice Beurre, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Volet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Le rôle et l'importance des sciences fondamentales dans le progrès et le développement ne sont cachés à personne. Les sciences telles que la chimie, la physique et les mathématiques ont toujours intéressé les gens et la société, et les événements scientifiques dans le domaine des sciences fondamentales sont suivis par différents groupes de personnes et de sociétés à différents niveaux d'éducation. Fin 2019, la Conférence générale de l'UNESCO a adopté une résolution proclamant 2022 comme année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable afin d'accorder une attention particulière aux sciences telles que la physique, la chimie, les mathématiques, la géologie, la biologie, les statistiques et la génétique. Planifier et organiser des événements liés à l'année des sciences fondamentales, réaliser des programmes pour faire connaître à la société les figures de proue de chaque pays en sciences fondamentales, mettre en œuvre des programmes pour mettre en relief l'importance et la position des sciences fondamentales au sein des sociétés humaines et identifier les capacités internationales afin d'être exploitées pour le développement des sciences fondamentales font partie des programmes 2022 dans la plupart des pays du monde. Les sciences fondamentales jouent un rôle important dans la mise en œuvre des programmes de développement. Par exemple, ces sciences fournissent les outils indispensables pour relever de sérieux défis tels que l'accès mondial à l'alimentation, à l'énergie, à la santé et aux technologies de la communication. Ainsi, chacun se rendra compte de l'impact important des sciences fondamentales sur la vie de milliards de personnes sur la planète. Les sciences fondamentales sont à la base des grandes avancées technologiques des sociétés humaines. Nous avons également besoin de la croissance et du développement des sciences fondamentales et d'une plus grande connaissance de leurs branches afin de former des spécialistes et de développer les conditions de vie de la future population mondiale. L'histoire de la production scientifique en Iran remonte à l'Antiquité et est profondément liée à l'histoire de notre pays. On peut même voir le reflet de l'importance de la science et de l'acquisition des connaissances dans la société iranienne, dans les œuvres des grands écrivains et poètes iraniens. En termes de situation géographique, l'Iran représente une combinaison de toutes les beautés du monde. Bien que nos frontières géographiques aient été attaquées à plusieurs reprises en raison de notre situation géopolitique, les envahisseurs n'ont pas eu beaucoup de succès sur le plan culturel. En revanche, l'impact de notre culture sur la culture des pays envahisseurs est visible. À cet égard, l'utilisation d'un certain nombre de lexiques persans par d'autres nations ou du résultat d'initiatives et d'inventions des Iraniens dans leur propre pays en est la preuve. Dans les temps anciens, l'Iran était connu comme le berceau de la science et de la connaissance. Les érudits persans ont apporté une contribution importante au développement des connaissances humaines modernes dans divers domaines tels que la médecine, les mathématiques, la philosophie et d'autres domaines scientifiques. On peut également mentionner leur rôle important dans le développement de l'algèbre et de la chimie. Parmi d'autres, le célèbre mathématicien iranien Mohammad ibn Musa Khwarazmi a inventé l'algorithme, développé l'algèbre et réorganisé les systèmes arithmétiques indiens et persans en connaissance. Cela a amené les Européens à changer leur système de numération du latin à l'indien. Au Moyen-Âge, les travaux de Khwarazmi ont eu un effet fondamental sur le développement des mathématiques dans les pays occidentaux. L'histoire de la médecine et de l'enseignement médical en Iran est très fructueuse et il existe de nombreux écrits dans ce domaine. L'Iran a toujours joué un rôle important dans le développement des sciences de la Grèce antique et de la médecine indienne et pour citer un exemple, nous mentionnons la fondation de l'université de Jamshedpur en Iran. L'université, qui abritait également un hôpital, était la première école de médecine de l'époque et ses étudiants recevaient une formation académique et scientifique sous la supervision de médecins expérimentés tout en y traitant des patients. En fait, ce centre scientifique qui accueillit des étudiants du monde entier a joué un rôle important dans le transfert des découvertes et des connaissances des médecines iraniennes, grecques et indiennes vers le monde musulman. Au Xe siècle après Jésus-Christ, Mohammad Zakaria Razi, un célèbre médecin, chimiste et philosophe iranien, a été reconnu comme le créateur de médicaments expérimentaux dans le traitement des maladies. Ses découvertes incluent la découverte de l'alcool, la production d'acide sulfurique, la production d'acide chlorhydrique, la production d'acide citrique, etc. Il a obtenu des acquis remarquables dans le domaine de la médecine, à tel point que l'historien des sciences George Alfred Léon Sarton, un Américain d'origine belge, le considère comme le plus grand médecin de l'islam et du Moyen-Âge. On dit qu'Avicenne s'est inspiré du livre Al-Hawi de Zakaria Razi pour écrire son livre Ranoun, qui est une grande encyclopédie médicale. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, Abu Rayhan Mohammad ibn Ahmad al-Biruni a écrit une encyclopédie d'astronomie dans laquelle il discutait de la possibilité que la Terre tourne autour du Soleil. Avant Tycho Brahe, astronome danois, il a dessiné la première carte du ciel en utilisant les formes et les dessins d'animaux pour décrire les constellations. Au Xe siècle, l'éminent professeur iranien de mathématiques et astronome Abdurrahman Sufi a été le premier à enregistrer et à signaler une galaxie sans l'utilisation d'un télescope. Il a découvert la nébuleuse de la Dame enchaînée dans la galaxie d'Andromède et l'a nommée le Petit Nuage. Il a également découvert les étoiles binaires et a affiné les théories de Kellogg et Ptolémée. Jaber ibn Hayyan, le célèbre philosophe et chimiste iranien qui a été appelé le père de la chimie, est également le père de nombreuses découvertes qui ont toutes été compilées dans une encyclopédie. Le monde a salué ce scientifique iranien de génie comme le fondateur de la chimie. Il avait de nombreuses inventions, a conçu des méthodes et des équipements qui sont encore utilisés par les chimistes d'aujourd'hui. Ibn Hisham, connu en Occident sous le nom d'Al-Hazen, est un autre scientifique connu comme le père de l'optique moderne, le pionnier de la méthode scientifique moderne et le fondateur de la physique expérimentale. Par ailleurs, il a écrit des manuscrits sur l'optique et de ses expériences sur les lentilles, les miroirs, la réfraction et la réflexion de la lumière. À noter qu'à l'entrée principale des Nations Unies se trouvent par ailleurs les statues de quatre penseurs iraniens comme Omar Khayyam, Abu Rayhan Biruni, Mohammad Zakaria Razi et Avicenne. Chers amis, à partir de cette semaine, nous présenterons une série d'émissions intitulée « Histoire des sciences en Iran » dont le but est de vous familiariser avec les grandes figures scientifiques de l'Iran et les acquis scientifiques d'une nation qui a fourni d'innombrables services à l'humanité. Cette série de programmes sera présentée en 2022 qui est célébrée comme l'année de la célébration des sciences fondamentales dans le monde.